Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu la joie de saluer. Je suis reconnaissant pour la technologie, j'aime travailler avec le papier, mais notre imprimantière a décidé qu'il en allait autrement pour elle. Alors voilà, grâce à la tablette, je peux quand même accéder à mes notes, donc je suis reconnaissant. Est-ce que vous avez remarqué que le monde suit son cours? On vit notre petite vie, le soleil continue à se lever, la pluie a tombé, les nuages a passé, la terre a tourné, les bébés à naître, les jours et les saisons à se succéder. Bon, il y a bien des événements de nature à nous interpeller. Dans certaines régions, le soleil semble briller trop fort, trop chaud, ou la pluie tomber en trop grande quantité, ou des personnes meurent alors qu'elles n'ont pas même atteint l'âge adulte. Il y a des catastrophes, des accidents. Ces choses devraient nous interpeller, nous faire réfléchir, chercher à comprendre ce monde, aller chercher la vérité, le sens de nos vies. Malheureusement, nos contemporains, et parfois nous-mêmes, on mène une vie souvent proche de celle des contemporains de Noé dont il est dit qu'ils mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est-à-dire qu'à quelque part, il présumait que « ainsi il en est aujourd'hui, ainsi il en a toujours été et ainsi il en sera toujours ». Il restait sourd aux appels de Noé, sourd à son avertissement d'un jugement à venir, appel illustré de façon matérielle par la construction littéralement d'un paquebot en bois sous leurs yeux. Ils avaient oublié une chose fondamentale, de se souvenir. Ils s'appuyaient sur ce que leurs sens pouvaient percevoir à leur petite échelle de vie, le soleil qui se lève, la pluie bienfaisante qui tombe, le péché qui semble pouvoir être pratiqué sans conséquences, ou du moins dont on préfère ne pas remarquer les conséquences. Que leur est-il arrivé? Ils ont tous péri. Alors pourquoi je vous raconte ces choses qui sont quand même pas très encourageantes? Car c'est en plein dans la thématique centrale du passage qu'on va étudier ce matin sur lequel je vais prêcher, la nécessité de nous souvenir pour ne pas mener cette vie insouciante. Alors qu'on entame le troisième chapitre de cette deuxième épître de Pierre, le ton de Pierre change. Dans le deuxième chapitre, Pierre a été direct et c'est sans prendre de gants qu'il a dénoncé les faux prophètes et leur funeste influence. Il nous a mis en garde de diverses manières, notamment en faisant appel à des souvenirs. À présent, son ton devient affectueux, comme celui d'un proche parent qui nous aime. À quatre reprises, dans ce seul chapitre, Pierre va utiliser un terme qu'il n'avait pas encore utilisé jusqu'ici, « bien-aimé ». Le Nouveau Testament littéral traduit ce terme par « aimé d'agapé », qui fait référence à cet amour dont on est aimé de Dieu. Mais si c'est sur le ton affectueux du berger, à l'image de l'amour de notre divin berger, Jésus-Christ, que Pierre termine cette lettre, il faut reconnaître que la thématique n'en est pas moins très sérieuse. Avant de commencer, voici les trois points. Vous l'avez peut-être déjà compris, il en va particulièrement de se souvenir. Le premier point sera un appel à se souvenir. Le deuxième, ce qu'on ne doit pas oublier, entre parenthèses, à l'inverse des moqueurs. Et le troisième, ce dont on doit se souvenir. Donc un appel à se souvenir, ce qu'on ne doit pas oublier à l'inverse des moqueurs, et ce dont on doit se souvenir. Alors, si jamais vous trouvez que le premier point commence à devenir long, avant de désespérer et de vous dire « heureusement, je ne fais pas partie de l'église de Neuchâtel », rassurez-vous, les points 2 et 3 sont un peu plus brefs que le premier. Donc le premier point, un appel à se souvenir. Cette prédication s'inscrit dans une série que j'ai faite à Neuchâtel sur laquelle on parcourt l'ensemble de l'épître. Donc la prédication précédente concernait celle des faux enseignants. Et j'avais fait part de la manière de reconnaître les faux docteurs. Comment reconnaître les faux enseignants? On peut prendre une image. Comment est-ce que les spécialistes des tableaux de l'art reconnaissent le vrai tableau du faux Eh bien, c'est à force de s'habituer à la vraie image. C'est à force de chercher comment le peintre travaillait, d'avoir vraiment en tête les détails de la peinture originale, qu'ils sont capables ensuite de reconnaître les copies. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Si on souhaite reconnaître les faux enseignants, ce n'est pas en cherchant à les observer, à les comprendre, mais c'est en fixant nos regards sur Christ, sur sa parole, sur le vrai enseignement. Et c'est ainsi que les faux enseignements nous sauteront tout de suite aux yeux. Et en fait, c'est ce que Pierre commence par nous dire dans ce chapitre. On a besoin d'une claire intelligence pour discerner et s'extraire des faux enseignements et des mensonges de ce monde. Alors comment cultiver une claire intelligence? Bien, c'est ce qu'on va voir. C'est donc la deuxième lettre que Pierre écrit à ses destinataires. Il informe lui-même que dans les deux, il fait volontairement appel à des souvenirs pour réveiller en eux et en nous aujourd'hui une claire intelligence, une intelligence éclairée qui voit clair, littéralement une intelligence pure, sans mélange. Alors purifier de quoi ? Purifier des mensonges colportés par ce monde, par les moqueurs et par les faux enseignants. On pourrait donc dire que c'est une intelligence purifiée des mensonges de ce monde. Ça peut être autant par des faux enseignants qui se disent chrétiens, que ceux plus général du monde. Alors, comment purifier, clarifier notre intelligence? Si on veut clarifier ou purifier un liquide, comme le vin, on utilise une étamine ou un chinois, comme ça s'appelle. C'est une sorte de tissu par lequel on va déverser, enfin faire traverser le liquide, et toutes les impuretés vont rester à l'intérieur de ce tissu, et le liquide va en ressortir éclairci. Mais comment ça se passe avec l'intelligence? On ne peut pas la passer par une étamine. Vous l'avez compris, ça n'a effectivement rien à voir. C'est Pierre lui-même qui va nous donner la réponse. Au verset 1, il nous dit « C'est en nous souvenant ». « Je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence ». Et au verset 2, il nous dit de quoi on a besoin de se souvenir. « Afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres ». Les prédictions des saints prophètes, ça fait référence à l'Ancien Testament. Le commandement du Seigneur et Sauveur, transmis par les apôtres, fait référence aux enseignements du Nouveau Testament, dont la rédaction était déjà bien avancée à l'époque où Pierre rédige cette lettre. Alors prenons le temps de voir quelques souvenirs auxquels Pierre a fait appel dans la lettre qu'on suit actuellement. Quels souvenirs fait-il remonter ? Déjà, au tout début de l'Épître, dans le chapitre 1, dans les versets 1 à 11, il va nous rappeler l'Évangile. Cet Évangile qui débute par l'action de Dieu dans notre vie lorsqu'il vient nous donner la foi. Cet Évangile par lequel on a tout reçu en Jésus, non seulement tout reçu en vue de la vie éternelle, mais aussi en vue de croître dans une vie de piété ici-bas. Pierre nous rappelle que le vrai Évangile est gratuit, et qu'il est suivi par une croissance dans la sanctification à laquelle on participe activement. Il nous rappelle ainsi que le salut gratuit doit être suivi par une croissance dans la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, la fraternité et l'amour. Et puis un peu plus loin dans le même chapitre, dans les versets 19 à 21, faisons écho au psaume 119, qui est un psaume qui magnifie la parole, la Bible. Faisant même référence de manière explicite au verset 105, il nous rappelle combien la Bible est précieuse et qu'elle doit être notre référence jusqu'au retour du Seigneur. Vous pouvez déjà retenir cette notion de jusqu'au retour du Seigneur. Et dans le chapitre 2, il nous rappelle et développe un thème enseigné par Jésus lui-même et d'autres apôtres. C'est le sujet des faux docteurs, des faux enseignants. Dans ce cadre-là, il nous a aussi rappelé l'égarement de Balaam, ou encore Proverbe 26, 11, au verset 22, « Le chien qui retourne à ce qu'il a vomi ». Il y aurait encore d'autres éléments généraux de la parole qu'on pourrait mentionner ici, particulièrement du Nouveau Testament, mais Pierre, en rédigeant cet épître, en avait un très particulier en tête. Un thème qui ressort dans toute l'épître et sur lequel on va particulièrement s'arrêter dans cette prédication. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de faire durer un petit peu le suspense et de développer d'abord ce qu'on doit retenir à ce stade. L'importance donc d'une claire intelligence et la manière dont elle est entretenue et cultivée. Voyez, chers frères et sœurs, on vit dans ce monde. Peut-être que comme moi, vous aimez voir un film ou une émission qui vous intéresse. Vous aussi, vous êtes soumis à des milliers de publicités chaque jour. Des études montrent qu'on est soumis dans nos pays à 3000 publicités par jour. Vous entendez aussi la voix des médias qui, pour beaucoup, se font la voix du monde. Vous discutez avec vos collègues et amis non chrétiens. Vous voyez des exemples de gens qui ont réussi selon le monde. À cela, il faut ajouter nos désirs. Voyez ce nouveau téléphone dans la main de votre prochain et dont les publicités ont bien pris le soin de vanter ses mérites. Alors, vous aimeriez bien le même. Mais peut-être s'agit-il plutôt d'une robe ? Ou d'un bijou ? De nouveaux meubles pour la maison ? Ou d'une maison ? D'un voyage ? D'une voiture, peut-être ? D'un objet connecté à qui vous pouvez parler et qui va effectuer des tâches à votre place ? D'un certain montant sur un compte en banque ? D'une relation harmonieuse ? De pouvoir manger un peu plus au restaurant et pouvoir un peu arrêter de cuisiner ? Ou alors est-ce un mariage ? Ou celui de vos enfants ? Peut-être un corps différent qui reflète plus l'image qu'on aimerait donner ? Et à cela, il faut encore ajouter les mensonges des faux enseignants au sens large. Je ne parle pas ici spécifiquement de personnes qui se disent chrétiennes, mais de toute personne qui, comme dans les médias, proclame détenir la vérité. Est-ce que vous avez remarqué comme presque chacun aujourd'hui dans les médias parle comme s'il était le détenteur de la vérité, comme s'il était la personne qui avait tout compris ? On entend de moins en moins de discours humbles et disposés à se remettre en question. Face à tout ceci et aux faux enseignements dans le monde chrétien, Dieu nous montre dans ce passage qu'une claire intelligence est indispensable et que c'est sa parole qui va nous permettre de la cultiver. Et vous savez quoi ? C'est pas parce que quelqu'un est avancé dans la foi ou parce qu'il prêche qu'il a moins besoin de ces choses. Non, plusieurs des exemples que j'ai cités avant, je les ai simplement puisés dans ma propre vie. J'ai besoin constamment que mon intelligence soit renouvelée. Comme le dit Paul en Romains 12:2, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, c'est ce qu'affirme Pierre aussi au verset 12 et suivant du chapitre 1, la nécessité de revenir aux enseignements de la parole, de s'en souvenir, même pour ceux qui sont déjà affermis dans la vérité. Alors prenons le temps pour lire la Bible. Ne comptons pas seulement sur le fait d'être présent le dimanche, même si c'est excellent et qu'en faisant ça, vous avez choisi la bonne part. Mais la semaine est composée de 7 jours. Le monde, le diable et notre chair ne font pas de pause les six autres jours de la semaine. J'aurais même envie de dire que c'est plutôt l'inverse. On a besoin de lire et méditer la Bible chaque jour pour que notre intelligence soit sans cesse renouvelée par la vérité. Et rappelons-nous que la Bible n'est pas un livre magique. Comme nous le rappelle souvent Timothée, notre pasteur à Neuchâtel, on a besoin du Saint-Esprit pour illuminer notre compréhension de la parole, pour qu'elle soit vivante dans notre cœur. Alors ayons aussi ce réflexe de la prière à chaque fois qu'on ouvre la Bible. Rappelons-nous aussi que dans certains domaines, on choisit à quelle voie on se soumet. Et face aux voies de ce monde, il y a une place pour faire de l'ordre dans les choses qu'on laisse avoir une influence sur nous. Films, émissions, influenceurs, jeux, réseaux sociaux, livres, podcasts. Ici, on n'est pas tous égaux. Il est important qu'on sache discerner les choses qui nous font du mal et qui nous éloignent de l'essentiel et nous-mêmes s'en écarter. Voyez, ces choses que j'ai mentionnées précédemment, elles ne sont pas forcément toutes mauvaises en soi, mais elles ont toutes un point commun, c'est ce pouvoir de détourner notre attention de l'essentiel. Alors revenons-en à la thématique que j'ai laissée en suspens. Cette thématique qui traverse toute la lettre et qui est centrale dans ce troisième chapitre. Pour nous y amener, je vais reprendre quelques autres souvenirs supplémentaires auxquels Pierre fait appel. Dans le chapitre 1, au verset 16 à 18, il nous a rappelé la transfiguration de Christ. qui était une révélation en avance de son retour en gloire à venir. Pour les trois apôtres présents, ça a été comme si Dieu avait levé un bout du voile qui cache la gloire de Christ et qu'il leur avait permis de voir à quoi ressemblerait Christ lors de son avènement, lors de son retour. Une expérience que Pierre nous rappelle à notre souvenir, et ce n'était pas rien. Durant cette expérience, la parole nous dit que l'effroi avait saisi les trois disciples présents. Voici encore deux autres souvenirs auxquels Pierre fait appel. Le déluge avec Noé dans le chapitre 2 et 3 et la destruction de Sodome et Gomorre au chapitre 2. Pierre veut nous rappeler que ce monde aura une fin, que cette fin arrivera lors du retour du Seigneur. Mais alors j'ai une question. Quel est le point commun entre le déluge, la destruction de Sodome et Gomorre et le retour du Seigneur? C'est le suivant. Le déluge, la destruction de Sodome et Gomorre nous rapporte un jugement durant lequel certaines personnes ont péri et d'autres ont été sauvées. C'est ce que Jésus nous enseigne lui-même, en fait. Dans Luc 17, au verset 26 et suivant, il dit « Ce qui arriva au jour de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera comme au temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. » Ces événements étaient donc des préfigurations, c'est-à-dire qu'ils étaient une image en avance de quelque chose de plus grand, le grand jour du jugement qui aura lieu lors du retour de Jésus. En ce jour, ce sera ce qui s'appelle le jugement dernier. Ce jour, c'est le jour où toutes les générations qui ont marché sur cette terre seront jugées, les grands et les petits. Ces événements en étaient non seulement des préfigurations, mais aussi des avertissements. Les personnes qui ont péri sont celles qui, comme les contemporains de Noé, ont refusé d'écouter l'appel à la repentance qui leur venait de Noé, prédicateur de la justice. De même, en ce grand jour, il y aura ceux qui périront et ceux qui seront sauvés, ceux qui ont rejeté l'appel à la repentance et ceux qui auront mis leur confiance en Christ dans la repentance et la foi. Ceux-là échapperont, car Jésus, notre souverain sacrificateur, dira en notre faveur « J'ai payé pour ces péchés. J'ai payé pour ces péchés. » Mais pour les autres, c'est le jugement éternel en enfer que Pierre illustre ici par le feu au verset 7. « Les cieux et la terre sont gardés en réserve pour le feu en vue du jour du jugement et de la perdition. » En fait, tous les jugements que nous voyons dans la parole et même les catastrophes qui arrivent dans ce monde devraient nous interpeller en vue du grand jour du jugement, pas seulement ces deux événements. C'est d'ailleurs ce qu'on a lu en introduction dans Luc 13, 1 à 5. Jésus nous dit que les gens qui ont péri dans ces catastrophes n'étaient pas pires que les autres, et donc pas pires que nous. Et il nous donne l'application. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareil. Il est important qu'on reconnaisse qu'on n'est pas mieux, pas moins coupable devant Dieu que les autres. Pas mieux que ceux qui vivent à Dubaï et qui ont vécu des inondations hors du commun il y a environ une année. Avant de passer au point 2, il y a un autre parallèle que j'aimerais souligner à ce stade. C'est celui entre l'arche et Jésus. Alors que le déluge arrivait, Noé est entré dans l'arche avec sa famille. C'est ainsi qu'ils ont été sauvés. Les autres sont restés dehors et ont péri. Jésus est cette arche dans laquelle on peut trouver refuge pour le jour du jugement. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, nous dit la Bible. Ceux qui sont en Christ échappent au jugement. Chacun qui aura placé sa confiance en Jésus pour son salut sera sauvé. Et j'écoutais un jour un généticien allemand. Il expliquait que chaque espèce, au niveau des animaux qu'il y a sur cette terre, fait partie d'une famille par laquelle on peut remonter au premier couple duquel ils descendent. Or, je m'explique en prenant l'exemple des êtres humains. Il y a des personnes qui ont la peau dite blanche, d'autres avec une teinte qui va plus sur le jaune, d'autres plus sur le rouge, ou alors plutôt brune. Certains ont des cheveux noirs et drus, alors que d'autres ont des cheveux blonds et fins. Certains ont des yeux noirs, d'une forme amande, d'autres des yeux bleus et plutôt de forme ronde. Il y en a des plus petits et trapus, des plus grands et fins. Pourtant, on descend tous d'Adam et Ève. Cela signifie que Adam et Ève contenaient dans leur gène déjà toute la richesse de l'humanité actuelle. Et de même, il expliquait qu'à l'origine, il y avait des animaux qui contenaient en eux toutes les familles d'animaux qu'on retrouve aujourd'hui sur Terre. Et donc ce généticien a fait l'exercice de prendre l'ensemble des animaux pour remonter à ce qui pouvait être le premier couple d'animaux duquel descendent tous ceux de la même famille. Et il est arrivé à environ 1000 familles. Donc après, on sait qu'il y en a qui devaient rentrer par deux, il y en a qui devaient rentrer par couple de sept. Donc ça fait environ 7000, entre 7000 et 8000 animaux qui devaient prendre place dans l'arche. Et la question qui s'est imposée à lui est assez intéressante. Souvent, quand on pense à l'arche, on a cette représentation du dessin avec la girafe qui a la tête qui dépasse, et l'impression d'être presque étranglée par la fenêtre parce qu'il y a les autres qui poussent derrière, mais essayent de garder le sourire, genre ça se passe bien. Puis on a vraiment l'impression que cette arche débordait, en fait. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, après avoir fait cet exercice-là, il ne comprend pas pourquoi l'arche était autant grande. Elle n'avait pas besoin d'être autant grande, même en comptant la nourriture qui devait accompagner les animaux. Et j'ai trouvé que la supposition qu'il a faite était intéressante. Il a dit, ma supposition, c'est que l'arche était trop grande afin que personne ne puisse dire « J'aurais voulu y entrer, mais il n'y avait pas la place. » De même aujourd'hui, sachez que le nombre de places en Christ n'est pas limité. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, allez à Christ. Il y a abondance de grâce pour chacun de vos péchés. Et vous pourrez dire avec la Bible que là où le péché a abondé, c'est-à-dire dans votre vie, dans notre vie, la grâce a surabondé. Et je vous rassure, on arrive gentiment au deuxième point. Ce qu'on ne doit pas oublier, à l'inverse des moqueurs, il s'agit d'événements qui sont passés et d'événements à venir. Pierre nous parle des derniers jours. Les derniers jours font référence à la période entre la première venue de Jésus et son retour. Pierre nous dit que durant cette période, il y aura des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise. Des gens donc qui se moquent, qui cherchent à humilier ceux qui croient en Jésus et en son retour, des gens qui ont la caractéristique de marcher selon leur propre convoitise, selon leur propre désir, et non pour un bien supérieur, ça vous dit quelque chose? Je pense. Hein. Vous les chrétiens, mais alors vous êtes vraiment intolérants. Mais les chrétiens, mais vous êtes dogmatiques. Ou encore, mais avec vos croyances, mais vous freinez le progrès. Or ici, c'est quelques arguments de ChatGPT, si jamais. Ou d'un autre type. Ça fait 2000 ans qu'il devait revenir. S'il devait revenir, ça se saurait. En tout cas, si Dieu existe, il se désintéresse complètement de ce qui se passe dans ce monde. Etc. Bon, c'est juste quelques exemples dont il serait assez facile de démontrer l'erreur ou que ces affirmations ne sont pas fondées. Mais le point de Pierre n'est pas ici. Il est dans ce que les gens oublient volontairement et dont nous devons nous souvenir. La création, durant laquelle Dieu a sorti les cieux et la terre du milieu de l'eau par la parole. Le déluge, où par la parole, Dieu a amené l'eau à recouvrir à nouveau la terre, signe de jugement. Et que c'est par cette même parole qui a fait ce qui précède qu'actuellement les cieux et la terre sont gardés en vue du retour de Jésus et du jugement qui l'accompagnera. En petite parenthèse ici, à qui est-ce qu'on peut penser lorsque Pierre nous parle de la parole de Dieu qui a créé, jugé et qui maintient toutes choses? C'est Jésus, hein? Jean 1, 1 à 3 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Et encore Colossiens 1, 16 à 17 « Car en lui, Jésus, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. » Je ferme la parenthèse. Revenons à ce qu'ils ignorent, donc la création et le déluge. Connaissez-vous le principe du naturalisme ou du naturalisme méthodologique? Ça vous dit quelque chose? Alors, afin qu'on ne puisse pas m'accuser de parti pris, je vous propose la description faite par ChatGPT quand je lui ai demandé de m'expliquer ce principe. Je débute la réponse de ChatGPT. Ce dernier, donc le naturalisme méthodologique, est un principe fondamental en science qui stipule que les explications scientifiques doivent se limiter à des causes naturelles et peuvent exclure des explications surnaturelles ou faisant appel à un créateur. Cela signifie que dans le cadre de la recherche scientifique, les phénomènes doivent être expliqués par des lois et des processus naturels observables sans recourir à des interventions divines. Fin de sa réponse. En gros, la science actuelle exclut l'idée que cet univers puisse avoir un début qui soit le résultat d'un acte créateur. Elle exclut la possibilité d'un déluge planétaire pour les raisons que nous venons de voir. Ce naturalisme méthodologique. Vous voyez comme ça rejoint notre texte? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme autrefois et il continue en nommant la création et le déluge, ce jugement planétaire. Donc c'est quoi le naturalisme? C'est justement exclure qu'il puisse y avoir eu des interventions divines et donc le présupposer que, ainsi il en est aujourd'hui, ainsi il en a toujours été. Prenons une illustration. Mettons que j'observe mon voisin qui habite une maison à côté de moi. De temps en temps, je le vois entretenir son jardin. L'année précédente, il a refait ses volets. Cette année, il a refait sa porte. Et en me basant sur cette observation, je décide de me poser la question combien de temps il a mis pour bâtir sa maison. Et à ce rythme-là, je me dis que je ne sais même pas s'il y a un siècle, ce serait suffisant. Mais vous comprenez le problème. L'acte de création, de construction, il est terminé. La maison est déjà bâtie. Ce dont je suis témoin, c'est juste de la façon dont il entretient sa maison. Je ne peux pas juger la rapidité de la construction de sa maison sur l'entretien qu'il effectue actuellement. Lors de la construction, il y avait certainement des moyens tout différents. Il y avait une activité toute différente avec différents ouvriers, des machines, peut-être même une grue qui était présente. De même, on ne peut pas observer le déroulement des choses actuelles et en déduire que tout a toujours fonctionné ainsi. C'est justement oublier qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a eu des interventions de Dieu hors normes, notamment lors de la création, mais aussi lors du déluge. Mais on pourrait citer d'autres exemples. Sodome, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, les guérisons et autres actes hors normes accompli par notre Seigneur lorsqu'il était sur terre. Voyez dans un cadre plus restreint. Si un médecin regardait le nombre de malades en Israël juste après la fin du ministère de Jésus et des apôtres, sans tenir compte des nombreuses guérisons effectuées par Jésus et par les apôtres, on pourrait être bien trompé sur la réalité de la santé des gens qui vivaient en Israël. Alors pourquoi Pierre veut qu'on se souvienne de ces choses ? Car s'il y a eu un acte de création, c'est qu'il y a un créateur. S'il y a eu un jugement planétaire, le déluge, c'est que ce créateur est juge et il jugera ce monde. Et c'est pour cela qu'on doit se souvenir de ces choses, afin de vivre dans notre époque avec les yeux sur ces réalités célestes, celles de la réalité que ce monde déchu aura un terme et qu'au terme, il y aura le jugement, à la suite de quoi Dieu renouvellera toutes choses. Et vous savez, c'était marquant, juste avant de faire cette prédication pour la première fois à Neuchâtel, j'étais invité à un enterrement de vie de garçon, de mon beau-frère en fait, et puis je me suis retrouvé en face de son témoin à un repas qui a eu la gentillesse d'aimablement me faire remarquer que je pouvais jeter ma Bible à la poubelle parce que la science avait aujourd'hui prouvé que tout ça c'était faux. Et je ne suis pas très bon pour les débats en fait, pour argumenter, je n'ai pas les bonnes idées au bon moment. Donc je suis parti sur ce qui me paraissait un petit peu le plus sage, juste lui poser des questions, challenger ce qu'il me disait en fait. Aller un petit peu chercher, mais comment tu peux affirmer ça, comment tu peux expliquer ces choses-là, etc. Puis de temps en temps, quand il me venait une chose, de planter par-ci, par-là une graine, et j'ai trouvé assez intéressant en fait. À un moment donné, il m'a dit rien, puis après il m'a dit, mais changeons de sujet en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il avait juste des phrases types qu'on lui avait dit. Pourtant, il me disait être passionné par la science, mais dès qu'on allait chercher un petit peu derrière, il n'y avait pas une réflexion réelle. Il n'avait que fait de reprendre ce qu'on lui avait dit. Et voyez, le monde captive si facilement notre attention. Il sait comment s'y prendre pour nous implanter ses différentes idées, ses pensées. Et c'est pour ça que Pierre nous dit non, souvenez-vous de ce que le Seigneur nous rappelle du passé et nous annonce de l'avenir, de ces choses qui arriveront. Ne croyons et ne vivons pas selon le mensonge de ce monde qui veut nous faire croire qu'ainsi il en est, ainsi il en a toujours été et ainsi il en sera toujours. Non, de même qu'il y a eu des actes d'intervention de Dieu hors normes dans le passé, de même il y en aura un autre lors du retour du Seigneur. Soyons prêts, un acte hors normes est devant nous et arrive. Il sera un moment d'exultation, de libération, d'entrée dans le repos, d'adoration comme jamais connu jusque-là, un temps de consolation, un festin céleste pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ sans mérite de leur part. Un temps aussi de jugement duquel découlera des pleurs et des grincements de dents. Car comme Pierre le dit, cette terre est réservée en vue du jugement pour la perdition des impies, donc des personnes qui n'auront pas placé leur confiance en Christ. Alors avant d'aborder le troisième et dernier point, ne rejetons pas ces réalités parce qu'elles nous terrorisent ou nous déplaisent ou nous mettent en colère. Les rejeter n'y changerait rien en fait. Si je vous dis que j'ai un téléphone dans ma poche qui a une fourre noire et que vous dites « mais quel mauvais goût d'avoir une fourre noire, ça m'étonnerait qu'il ait choisi noire, je suis sûr qu'elle doit être rose ou jaune », ça ne va rien changer à la couleur de la fourre dans ma poche. Mon avis par rapport au jugement qui arrive ne va pas changer la réalité de ce jugement. Le seul bon réflexe face à ces réalités est d'aller se réfugier dans l'arche, de courir à Jésus. Et j'arrive au troisième et dernier point, ce dont nous devons nous souvenir. À présent, le dernier point concerne le caractère de Dieu. Face aux moqueurs, à ceux qui veulent oublier les réalités dont on vient de parler, Pierre nous dit « Mais il y a un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimé, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et aussi, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. » Pierre veut maintenant que nous nous rappelions que Dieu n'est pas comme nous. Premièrement, Dieu n'est pas soumis au temps, comme nous on l'est. Pour lui, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. D'ailleurs, encore un souvenir. Cette fois-ci, Pierre est allé le chercher dans le psaume 90 au verset 4, qui dit « Car 1000 ans sont comme à tes yeux comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. » Chers frères et sœurs, peut-être que ces 2000 ans sans intervention surnaturelle, sans retour du Seigneur, vous paraissent longs et peuvent être de nature à vous mettre en doute. Mais là encore, Pierre souligne l'importance de se souvenir de l'enseignement de la parole. Dieu nous dit à son sujet que le temps n'est pas pour lui comme il l'est pour nous. Ce rappel est de nature à clarifier, à purifier notre intelligence et soutenir notre foi. Puis Dieu, au travers de Pierre, veut nous donner aussi la raison de ce qui peut nous paraître un retard, ou en tout cas une période bien longue. Et la raison est étonnante. C'est nous. Chers frères et sœurs, les élus sont la raison du délai dans l'accomplissement de sa promesse, de son retour. Comment ? Nous ? Mais comment ça se fait ? Parce que là encore, Dieu n'est pas comme nous. Il est patient. Envers qui ? Envers nous. Envers moi. Envers vous. C'est ce que nous dit le verset 9. Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Ainsi, derrière le fait que le Seigneur ne soit toujours pas revenu, ce n'est pas une faiblesse, une incapacité à accomplir ce qu'il dit, ni une personnalité versatile qui, après avoir promis quelque chose, aurait changé d'avis. Non, c'est la patience de Dieu pour son peuple, pour nous. C'est sa patience envers les élus qui retient encore le retour de Jésus-Christ, car il veut que nous arrivions tous à la repentance. Comme le texte le dit, il use de patience envers vous. Mais qui est le « vous » d'ailleurs ? Pour ça, il faut qu'on retourne au début de la lettre pour savoir à qui Pierre écrit. Et donc au chapitre 1, verset 1, Pierre dit « à tous ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre ». C'est donc à des chrétiens que Pierre écrit. Le sens en est encore confirmé avec le verset 15 du chapitre 3. Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Mais à chaque chose en son temps. Ce passage sera Dieu voulant pour la prochaine prédication. Pour ce qui concerne aujourd'hui, il est temps de conclure sur cette réjouissante nouvelle de la patience de Dieu pour nous. Et je vais commencer cette conclusion en vous rappelant trois principes. L'importance de se souvenir. L'importance donc de cultiver une claire intelligence, purifiée des mensonges de ce monde. Nous sommes comme quelqu'un qui essaye de nager à contre-courant dans des rapides d'un grand fleuve. Le grand fleuve étant le courant de ce monde. Ce qui rend la chose possible, c'est se souvenir des enseignements de la parole en la lisant et en la méditant. Bien sûr, tous les autres moyens de grâce ne sont pas à dédaigner, comme le culte, la communion fraternelle, l'adoration, la louange. Se souvenir particulièrement que ce monde aura une fin, que cette fin sera lors du retour du Seigneur qui est bien certain. Tout ce qu'on voit ici aura une fin, va passer. Pour finir, l'importance de répondre à l'appel de trouver refuge dans l'arche. Le déluge du jugement de Dieu arrive et personne ne pourra y faire face sans périr. Au moment de son retour, il sera trop tard. Mais Jésus est un sauveur sûr, l'arche de notre salut, en qui nous ne risquons rien. Souvenez-vous, l'arche est suffisamment grande. L'œuvre de Jésus à la croix est suffisante pour vous aussi. Ne résistez pas à l'appel, allez à Christ. Et si nous sommes à Christ, menons une vie dans la perspective que ce monde sera encore une fois bouleversé par un événement surnaturel lors du retour du Seigneur. Veillons, comme Jésus nous a exhortés avec la parabole des 10 vierges, et rappelons-nous que derrière ce temps d'attente se manifeste l'immense patience de notre Dieu pour nous. Et la conclusion de la conclusion, je vais laisser la parole au Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu 24, versets 35 jusqu'à 42. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera ainsi, de même, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et nous transforme à son image.